RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story avec aujourd'hui nos trois GG, Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie. Nous sommes avec Zora Habitant, cadre de la fonction publique, et Jérôme Marty, médecin généraliste. On prend quelques minutes pour discuter de ce couple qui va passer devant le tribunal de Dunkerque parce qu'ils ont contesté un contrôle de gendarmerie. Ils affirment ne plus appartenir à la République française. Je ne contracte pas, c'est ce qu'ils disent pour eux aujourd'hui. Depuis 1947, la France est devenue une entreprise privée qui est administrée depuis les États-Unis par une espèce de gouvernement et
occulte.
Occulte, voilà, avec les données qui sont recueillies notamment par des banquiers, des magistrats, des médias. Et aujourd'hui, ils estiment que tout ce qui se fait et qui est mis en place par le gouvernement français n'a aucune valeur légale. Alors, ça fait partie de cette mouvance complotiste, comme le dit, rappelé Jérôme Marty, un peu QAnon. Ce sont ceux qui ont été poussés par Donald Trump à envahir
le
Capitole. Vous savez, c'est le fameux gars qu'on voit avec son espèce
de... Enfin, même si Trump, c'est pas ça.
Non, j'ai pas. Ah, non, mais ils ont été poussés, instrumentalisés par Trump. C'est
sûr.
Ça, c'est une réalité. Il a toujours une base militante ou une base très agitée, et il a joué avec cette base-là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit?
Il
n'a
pas dénoncé.
Je signale qu'il a promis que s'il était élu, ceux qui étaient les émeutiers du Capitole ou ceux qui ont été inculpés, il a dit qu'il les gracierait tous. C'était de bons Américains.
Et c'est devenu un parti politique, non, je dis. Ils ont plusieurs sénateurs aussi.
Alors, Nicolas est avec nous. Bonjour, Nicolas.
Et bonjour.
Bonjour. Alors, Nicolas, vous vous définissez vous aussi comme citoyen souverain, c'est ça?
Je suis citoyen de ma personne, et puis déjà dit, une précision, c'est rien d'un mouvement en fait. C'est le peuple qui en a marre, qui à un moment donné fait ses propres recherches sur Internet et tout y est sur le net.
Ça veut dire quoi, tout y est sur le net? Ça veut dire quoi?
Vous tapez ce que vous voulez, que ce soit l'URSSAF, l'huissier, le gouvernement. Il y a des dossiers, voilà, tout y est. Ils sont inscrits au registre des commerces via les DUNS en Amérique. Toutes les routes de France, les autoroutes, ainsi, c'est privé, il n'y a rien de public. Tout est privé.
Ah. Bon, mais aujourd'hui, la République française, pour vous, elle n'existe plus, alors? Nicolas.
Elle existe, pour ma part, je parle pour moi, ma personne, elle existe sans exister. Mais déjà, il y a des millions et des milliards, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont, et puis ils nous réclament beaucoup plus d'impôts, et puis plus de taxes et de charges. À un moment donné, on n'arrive plus à survivre et à suivre, et à les suivre surtout. Oui, après, c'est vrai que le couple en attendant, ce n'est pas des faux papiers, c'est des papiers véritables.
Les papiers d'identité, on sait ce que c'est, les papiers d'identité.
Vous pouvez voyager avec vos papiers?
De la République française.
Est-ce que vous pouvez prendre l'avion, partir à l'étranger et voyager avec les papiers que vous vous êtes fabriqués?
On ne les fabrique pas nous-mêmes. J'ai voltigé une fois vite le sujet, c'est pour ce décider.
D'accord, quand je passe à l'aéroport, je présente mon papier du peuple.
Oui.
Et je peux voyager avec.
Bien sûr.
Comment ?
Bien sûr.
Ah d'accord, je peux. Donc vous pouvez me fournir un passeport et donc à la douane, je dis je suis passeport du peuple. Et je peux voyager.
Après, j'ai pas été, comme j'ai dit, dans ces recherches-là, parce que
je vous parle d'un acte. Vous êtes en train de dire que la République n'existe pas, la France est une société privée vendue à je sais pas qui. Et que finalement, la pièce d'identité est une fabrication de quelque chose qui n'existait pas, qui n'existe pas. Moi, je vous pose une question. Vous dites que vous avez des papiers d'identité qui sont fabriqués par le peuple et qui sont des papiers issus du peuple. Donc maintenant, je vous demande si ces papiers issus du peuple sont reconnus dans les douanes dans le monde entier pour voyager. Est-ce que vous pouvez contracter un prêt à votre banque avec ce papier?
Moi, j'ai pas de banque traditionnelle, déjà, d'une. J'ai arrêté les banques traditionnelles.
Vous ne répondez pas à ma question.
Après, pour ces papiers-là, il faut passer en mairie, de toute manière. Ils font son acte de naissance.
Donc,
il vous faut des papiers officiels qui viennent de la mairie et autres.
De base, oui, puisqu'on a été déclarés, nos parents nous ont tous déclarés, de toute façon, en mairie.
Mais Nicolas, aujourd'hui, à votre avis, je sais pas, j'essaie de comprendre, hein, qu'est-ce qu'on nous cache, qu'est-ce qu'on cherche à faire, expliquez-moi, Nicolas.
Ben, on nous cherche déjà depuis des décennies à nous exploiter, à nous tirer plus d'argent, boulot, et que tout est illégal.
Mais c'est dans
les droits de l'homme, les impôts. On n'a pas payé d'impôts. C'est si on a envie de payer des impôts. Il parle d'une assiette. C'est pas une obligation de payer ses impôts. C'est dans la Constitution.
Mais une société, pour qu'elle fonctionne, hein, une entreprise privée, pour qu'elle fonctionne, elle a une infrastructure, elle paye de l'électricité, elle paye de l'eau, elle paye des charges, elle paye
mais comment vous avez la protection?
Bon, vous tombez quelque part, et je vous le souhaite vous vous faites très mal, ou vous êtes gravement malade. Elle est où l'entreprise peuple qui va vous soigner?
Ah ben ça, après, c'est à chacun à se débrouiller, hein, j'ai envie de dire.
Après,
la personne prend la responsabilité de ce qu'il doit réactiver, donc il assume... D'arrêter d'être citoyen du...
Donc ça veut dire que vous ne vous faites pas soigner non plus.
Ah bah après, je sais pas, c'est après la personne qui...
Non mais il y a beaucoup de trous dans la raquette
de trous dans la raquette, c'est-à-dire que vous comptez peut-être sur les autres pour payer pour vous et puis ensuite...
Monsieur, vous êtes routier, on est d'accord, routier c'est la route, les routes que vous empruntez, qui les entretient?
L'autoroute, c'est Vinci.
D'accord, ok.
Les départementales, c'est les mairies.
C'est les départements, d'accord.
Mais Nicolas, moi, je voudrais comprendre. Vous dites que ce mouvement est logique, mais logique de quoi et en
c'est
quoi?
C'est pas un mouvement.
Ben, c'est quoi alors? Vous aspirez à quoi? On essaie de comprendre.
On aspire à la paix, en fait, à vivre en paix. C'est pas compliqué. On arrête de nous assassiner de taxes, de charges et boss, boulot, métro, dodo.
On peut être en colère contre les charges, contre les impôts, ça c'est une chose. Mais de là à dire que la France n'est plus la République, on est d'accord, il y a des raisons d'être en colère. Là à dire que la France est un pays qui a été vendu, de rentrer dans une espèce de théorie en disant que le gouvernement n'est plus le gouvernement, que la France a été vendue en 1946 à des puissances occultes. Ça, qu'est-ce que vous en faites?
Mais surtout, les impôts existaient avant 1947.
Attendez, allez-y, Nicolas.
Déjà, toutes les lois que Charles de Gaulle a sorties sont caduques, parce qu'il n'était pas déjà premier président. C'est le peuple qui l'a voulu président. Donc, toutes les lois de Gaulle sont caduques. Elles sont illégales, déjà.
Ah bon?
Oui.
Pourquoi c'est illégal?
Non, c'est pas autre chose. Parce qu'il n'y a pas eu de vote et que c'était en train de guerre et qu'ils ont voulu, le peuple et le gouvernement ont voulu de Gaulle. Donc, il a été à partir de là président de la France.
Toute la 5e République aujourd'hui pour vous est nulle et non avenue, quoi, en fait, c'est ça.
J'ai une question. Est-ce que vous savez que le général de Gaulle, qui a été élu président à deux reprises, la deuxième fois en 1965, il a été élu au suffrage universel direct, démocratiquement, par l'élection de 65 pour son deuxième mandat. Est-ce que vous êtes au courant par le peuple? Est-ce que vous êtes au courant de cette information historique?
Je suis au courant, mais je parle juste de la première partie où il a été.
Ah, mais donc au moins tout ce que le général de Gaulle a fait de 65 à 69 est valide.
Ouais, mais.
Et donc la deuxième partie n'est pas caduque.
Après, je suis pas à la maison, je voudrais vous dire, j'ai pas toutes mes notes sous les yeux.
Ah, d'accord. Vous n'avez pas votre petit bréviaire.
D'accord.
Donc, ça fait depuis 2020, ouais, que je suis un peu.
Mais qu'est-ce qui s'est... Moi, j'ai une question simple.
Depuis 2020.
Vous vous intéressez à ça en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce cheminement?
C'est le Covid.
On peut remercier Covid qui a aidé, éveillé pas mal. C'était de gens.
C'est QFD.
Ce qui vous a éveillé, c'est ce que vous dites.
Comme wow en anglais.
Oui. Vous a éveillé.
Mon premier point, c'était en 2016-2017, quand il y a eu Marine et Macron. Déjà, je me dis, Marine, elle danse en boîte, elle a perdu, elle s'éclate de rire. Je me dis, il y a un truc qui cloche quand même. Moi, je suis en présidentielle, je ne vais pas m'amuser en boîte. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire quelques recherches. Après, il y a eu le Covid. D'accord. J'ai été dans l'administration de l'Alliance humaine 2020 avec avec les veilleurs et tant d'autres qui avaient. C'est à partir de là que.
Mais vous n'avez pas. Non, mais honnêtement, Nicolas, vous n'avez pas l'impression quand même que c'est quand même pas mal bancal. On peut entendre. Moi, et on est les premiers à défendre. Attendez. On est les premiers ici à défendre l'idée que le pouvoir d'achat, que la situation des Français, qu'il n'y a plus d'exemplarité au niveau de ceux qui nous gouvernent depuis des années. Ça, on peut être d'accord, il n'y a pas de souci. Mais vous n'avez pas l'impression que sur ces faits-là, sur ce que le mal-être des Français est sur un quotidien de plus en plus compliqué, il y a quand même pas mal de gourous qui s'engouffrent et qui vous trouvent, vous, pour les suivre, alors qu'il y a quand même pas mal de trous dans votre raquette.
Et puis, deuxième réflexion, vous reprochez au fond... Vous suspectez l'existence d'une espèce de gouvernement caché derrière les gouvernements apparents, etc. Mais dans le mouvement dans lequel vous vous inscrivez, est-ce que vous savez quels sont les chefs?
C'est des mouvements occultes aussi. C'est
qui dirige ça? D'où ça vient?
C'est des pouvoirs
occultes. Qui a les manettes, etc. Est-ce que vous savez ça?
Alors déjà, il n'y a pas de gourou.
C'est la parole aux citoyens.
C'est pas un mouvement,
pouvoir aux citoyens.
Un truc complotiste, non. Ah. Non. C'est la parole citoyen, c'est tout.
À peine.
Il y a quand même des sociétés qui vendent les faux papiers pour ça, quand même, vous le savez, ça.
Maintenant, pour revenir, qui dirige le monde? Eh ben, c'est les grands porte-monnaie, tout simplement. La famille Rothschild, la famille.
Nous y voilà.
Après, mais bien sûr, nous y voilà. Après, on a qui. J'ai son nom.
Bon, écoutez,
lâchez-vous, dites-nous.
Nicolas, pardon, mais on va arrêter là, parce qu'au bout d'un moment, les inepties, on a une responsabilité en tant que média raconter tout et n'importe quoi. C'était juste pour essayer de comprendre jusqu'où ça allait. Nicolas, je vous remercie quand même, vous avez appelé, puis vous étiez avec nous. Enfin, on voit bien que là, touche quand même le fond.
Mais comme quoi, il a raison, Jérôme.
On touche le fond du raisonnement.
Non, mais on voit bien que
tout ceux qui aujourd'hui sont quand même un peu perdus, parce que ça part d'un mouvement qui est celui de la colère. Colère légitime sur les impôts, sur l'État, sur le fait qu'on gagne pas bien notre vie. C'est
sur le toutes fait les faillites des gouvernements.
Sur le fait qu'aujourd'hui, mais finalement, on s'y
faillite des élites. En fait, le complotisme prospère sur la faillite
et
réelle des élites.
Tu as le fameux « faites vos recherches ». Sur Internet, on trouve tout. Et là, tu vois très bien que tu t'es inscrit dans la dynamique des algorithmes. Dès l'instant où il commence à chercher, il se fait enfermer et on l'abreuve des informations qu'il a envie de voir. Et c'est fini, tu peux plus en sortir à partir de là, quoi. Et c'est pour ça que le Covid a aidé à ça, parce que le Covid nous a amené en terrain inconnu, et comme on était en terrain inconnu, tout un tas de gens ont voulu se rassurer en lisant ce qu'ils voulaient entendre. C'est fabriqué par des puissances occultes, etc., etc. Et tu rentres là-dedans et tu peux plus en sortir, et c'est fini.
Tout ce qui a été généré par certaines aberrations administratives dont on a longuement et largement parlé dans les GG aussi, en fermant tout, en faisant des attestations pour sortir à 2 kilomètres, en disant ce qui était utile, pas utile, nécessaire.
Oui, non, mais c'est vrai qu'on a, on n'est pas aidé.
Pas nécessaire pour finalement. Arriver à quoi derrière? Avoir beaucoup de médecins qui disaient, écoutez, il y a un moment, il faudra apprendre à vivre avec le Covid.
Non, mais et puis, c'est sûr que
président de la République était avec un conseil de défense où tout ce qui était où rien n'était discutable finalement.
Non, mais le Covid a été une période
et donc
pas
ça
simple.
Si tu veux, toute une sphère qui s'est dit, on cherche à nous manipuler, regardez, on nous contrôle et autres. Alors maintenant, ces gens-là, c'est compliqué de les faire revenir. Et là, je m'adresse au prof philo, à une certaine rationalité. Si tu veux, parce qu'ils sont nourris, ils sont nourris eux-mêmes par les algorithmes. Alors, c'est vrai, est-ce qu'on peut arriver à les faire revenir à cette rationalité ou pas? Ou est-ce qu'on se dit après tout, on laisse tomber, quoi?
Non, honnêtement, je pense qu'on ne peut pas les convaincre. C'est comme les mouvements sectaires et des gens qui quitteraient cette mouvance. À mon avis, ça ne se jouerait pas sur des mécanismes purement rationnels. C'est-à-dire, il y a des parcours de vie où en effet, à un moment, tu retrouves un équilibre dans ta vie et du coup, tu n'es plus attiré par ces théories et tu les quittes. Mais exactement comme pour l'islamisme, etc., etc. Mais ce sont des parcours de vie. C'est pas, tu peux argumenter, donner tous les arguments que tu veux, de toute façon tes arguments ne seront pas écoutés. Non, et surtout, ce que j'ai remarqué, et c'est comme pour le wokisme, puisqu'il a employé, il a dit « je suis un éveillé », c'est exactement ce que veut dire le terme « woke » en anglais, c'est ceux qui sont éveillés aux discriminations, c'est-à-dire, et c'est aussi un terme qui est très souvent utilisé par les sectes, on parle des éveillés, c'est que ceux qui sont dans ce genre de croyances ont un énorme sentiment de supériorité sur le plan narcissique, puisqu'ils disent « nous le savons, vous, avec vos arguments, vous êtes des naïfs, vous êtes des moutons du système, vous êtes des imbéciles. Nous, nous sommes les éveillés qui avons accès à une vérité cachée, qui connaissons les ressorts occultes et tout. Donc c'est très flatteur, sur le à la fois très rassurant parce qu'on a enfin une explication au monde, et en même temps très flatteur sur le plan narcissique. Donc ils n'ont pas d'intérêt psychologique
à en sortir.
À en sortir. C'est un complexe de supériorité énorme, en fait.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, est-ce qu'aujourd'hui il y a une police des mœurs à l'école ? C'est Mila qui l'a dénoncé hier dans son coup de gueule après ce qui est arrivé à Samara, après la mort de Shemseddine. Elle dit aujourd'hui il y a une police des mœurs, une espèce de charia qui s'impose avec beaucoup de facilité, qui fait aussi que Samara s'est fait tabasser. Est-ce qu'elle a raison ou pas ? On en parle avec vous au 32-16, dernière discussion dans les jeux, dans les grandes gueules, et puis on aura le gagnant du jeu Europa Park.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules. RMC, midi 15h,
Estelle Midi.
Dans Estelle Midi, aujourd'hui, l'insécurité des transports en commun défaillants, la pollution de la Seine. Va-t-on vers un fiasco pour les JO ? L'automobile, le gouvernement veut imposer le tout électrique, bonne ou mauvaise idée ? Et puis l'effondrement de la lecture, la baisse du niveau d'orthographe chez les jeunes. Va-t-on vers une génération de crétins ? Vous nous appelez au 3216.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules qui discutent, qui débattent tous les jours avec des sujets qui fâchent, avec Jérôme Marty, le médecin généraliste, avec Zora Bitton, cadre de la fonction publique, avec Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie. Dans un instant, on aura notre gagnant du Europa Park, c'est le coup de bol du jour, il a été tiré au sort. On va commencer notre discussion.
RMC, les grandes gueules.
Vous savez, Mila, cette adolescente qui avait été déscolarisée, cyberharcelée et même menacée de mort depuis 4 ans parce qu'elle s'était embrouillée sur les réseaux sociaux avec un jeune homme à propos d'Islamir, elle était l'invitée d'Apolline de Malherbe sur RMC et BFM TV. Hier, on l'a écouté dire « la laïcité est morte ». On en a débattu d'ailleurs dans les GG, dans les grandes gueules. Mais il y a d'autres phrases qui continuent d'être abondamment commentées sur les réseaux sociaux, reprises par les responsables politiques. Elles prêtent à débat. Il y en a une notamment sur... après ce qui est arrivé à Samara, la jeune fille à Montpellier, et puis Shemseddine, ce qui lui est arrivé, malheureusement, il a été frappé, battu à mort du côté de Viry-Châtillon. Samara, parce que elle s'émancipait dans ses tenues. Shemseddine, parce que il discutait sexe par texto avec une jeune fille de 15 ans, et c'est ses deux frères, dont un grand, qui ont voulu lui donner une leçon, soi-disant. Parce que ça a tenté à l'honneur de leur sœur. Ben voilà ce que dit Mila. Elle dit en fait, on est dans une espèce de loi de police des mœurs. Alors, elle pousse même jusqu'à dire charia.
Au sein des établissements, moi, j'ai l'impression qu'on a une véritable police des mœurs dans les lycées, de la part des élèves qui sont d'ailleurs encouragés souvent par leurs parents vis-à-vis de leur éducation, qui se sentent mais en totale impunité. On parle de jeunes, mais qui s'encouragent mutuellement. C'est massif. Il y a des trentaines, des cinquantaines de personnes. Ça s'arrête jamais. Je sais pas si les parents ferment les yeux ou s'ils en ont juste rien à foutre. Ayant été au lycée, je sais pourtant que, bah, je dirais pas les professeurs, mais ouais, les encadrants, les proviseurs sont en général informés de ce qu'il se passe. Mais c'est tellement plus facile de mettre ça sous le tapis.
Alors, est-ce qu'elle a raison aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une police des mœurs à l'école sur la tenue, sur la fréquentation ? C'est lié à la religion ? Oui ou non ? 32-16 pour en débattre avec les GG, avec les grandes gueules. Zora ?
Ah, bah alors.
Tu es d'accord ou pas ?
Mais bien sûr. Mais en fait, ce que Mila tente de nous dire, et certains nous diront que ce n'est pas grave, ce n'est qu'une minorité, etc. N'empêche qu'il y a une jeune fille qui s'est fait tabasser il y a quelques jours et un jeune homme qui est mort il y a quelques jours aussi. Ce que dit Mila, c'est que la pudeur est entrée dans les établissements scolaires. Et donc, il y a une frontière entre les pudiques et les impudiques. Et ça commence par les jupes. On sait que la jupe, il y a eu la journée de la jupe. On a fait beaucoup de choses autour de la jupe, pas pour rien. Il y a eu ni pute ni soumise en 2003. On a dénoncé le patriarcat il y a quelques années. Moi, je fais partie de la génération issue de l'immigration où, pour des raisons culturelles, religieuses, on devait pas se découvrir, on pouvait pas sortir en short, etc. Mais par contre, nos parents nous laissaient assez facilement aller à l'école en jupe, en short. On partait en colonie de vacances en short. Mmh. On n'avait pas à ce point-là une police du vêtement jusque dans la société française. C'était plutôt au sein de la famille que nos parents nous demandaient de nous couvrir par tradition et par culture. À l'école aujourd'hui, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la réalité. Parce qu'il y a une tendance, et d'ailleurs ça existe un peu dans la ruralité, mais beaucoup moins. C'est vrai qu'une fille arriverait à l'école en jupe courte ou en short, ça choquerait pas, mais quand même, c'est pas quand même la règle. Mais Mila a raison. Dans beaucoup d'endroits en France, il y a ce renoncement au fait que être découverte, c'est synonyme d'être une pute, c'est synonyme d'être quelqu'un qui veut séduire, etc. Mais on s'est émancipé. Moi, je fais partie de la génération où justement des combats ont été gagnés pour que nous puissions être libres et qu'en fait, être en short ou en jupe ou en robe n'était pas synonyme d'être disponible pour n'importe quel mec. Or, aujourd'hui, des gamins de 8, 9, 10, 11, 12 ans dans les collèges et les lycées vous disent que finalement, être découverte, c'est pas bien, t'es impudique. Donc il y a un vrai problème. Mila dit des vérités, qu'on le veuille ou non. On peut continuer à se mettre la tête dans le sable, on peut continuer à être dans le déni et la complaisance, mais jusqu'à présent, ce déni et cette complaisance tuent.
Ça s'est vu,
et
ça
ils ont
vu
tué.
Avec l'abaya,
mais là, totalement,
il,
mais
il
totalement.
A, il a fallu que
mais quand,
le ministre
non, mais
de l'Éducation
je vais vous faire le parallèle. Je vais vous faire le parallèle. Quand on se couvre totalement. Même si on enlève son voile à l'école, quand on se couvre totalement, c'est que quelque part, on définit une frontière entre je suis pudique et tu ne l'es pas. On renvoie au miroir à l'autre fille.
Qui le décide?
Mais ce sont ceux qui se voilent. Parce que est-ce qu'une jeune fille en mini-jupe a déjà agressé une jeune fille voilée? Pas du tout. C'est le contraire. C'est plutôt les jeunes filles qui sont pudiques, qui considèrent qu'elles sont, elles, des jeunes filles exemplaires, qui disent aux autres, or, ce n'est pas nos codes sociaux. À 15 ans, Chem Sedine qui parle de sexe avec une gamine de 15 ans, ça fait partie des codes sociaux de notre pays.
Après, si aux parents à veiller que ça ne dépasse pas une certaine limite.
On est dans un pays occidental.
Pas une correction.
Moi, je suis pour le respect.
Parce que tu considères que ça atteint l'honneur de ta sœur.
Moi, je suis pour le respect des codes culturels et religieux des individus chez eux. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit. Mais je suis contre propager ces codes sociaux dans la société, dans l'espace collectif. C'est tout. Et Mila dit, elle a été lycéenne, elle le sait, on voit bien aujourd'hui. Voyez-vous, on dit aux jeunes, il faut pas, le short, la jupe à l'école, c'est fini. Mais c'est quand même délirant. C'est quand même délirant. On est en France, on n'est pas en Iran.
Jean-Loup.
Ouais, bon, moi,
elle a raison, Mila.
Je suis un peu gêné parce que moi, je ne suis pas du tout un fan ni de Mila, ni de Charlie, ni de ce genre de choses. Mais après, il se trouve que dans ces déclarations.
T'es pas
précises,
fan de la liberté?
De quoi? Non, moi, je pense pas qu'insulter les gens dans leurs croyances fondamentales, moi, c'est pas, quelle que soit la religion d'ailleurs. Mais, simplement sur ce qu'elle décrit là, précisément, avec les exemples qu'on a vus, je pense que là, sur ce point précis, elle a, raison. Alors, si tu fais la liste, premièrement, comme ça, la boucle sera bouclée par rapport à notre sujet du début, évidemment que c'est une conséquence directe de l'immigration. Et que si tu fais venir en masse des familles du Maroc, d'Algérie, de Turquie, de Tchétchénie, tu verras sur le sol français.
Alors toi, ta contradiction, elle est énorme, mais j'y viendrai.
Non, mais des choses qui se passent au Maroc, en Algérie, en Turquie, en Tchétchénie. Faut pas être surpris. Deuxièmement,
mais est-ce qu'on l'accepte? Attends,
ça me paraît, voilà, tu vois bien qu'il y a une culture de l'honneur clanique méditerranéenne qui est très représentée dans tout le bassin méditerranéen, hein, et aussi, d'ailleurs en Italie, en Corse aussi, et tout particulièrement au Maghreb, où l'honneur de la famille passe par le clan, donc culture clanique, tribale, passe par le contrôle de la sexualité, de la réputation publique des femmes. C'est exactement ça qui s'est joué dans l'affaire de Viry-Châtillon, passe par les frères qui sont censés laver l'honneur de la sœur. Voilà, mes frères vont venir te casser la gueule. C'est un grand classique de la culture clanique. Évidemment que si tu importes ces cultures en masse sur le territoire national, tu vois ce genre de choses se passer. Et après, en plus de la culture clanique du contrôle social et du contrôle de la réputation des femmes de la famille, des sœurs et des filles, se rajoute un peu un islamisme d'atmosphère qui se diffuse notamment via les réseaux sociaux. Ouais, voilà.
Non mais t'es pas Charlie. Alors toi t'es énorme. Oui. Toi t'es pas Charlie. Mais il y a eu plein de morts, Charlie et Bataclan et le reste, pour justement toutes les raisons que tu viens de lister. Et
non,
à
mais
côté
j'aurais préféré
ça,
que ces mecs restent chez eux, mais qu'on ne les insulte pas. Non, mais à la fois, on ne faisait pas de caricature du prophète, et les, par contre,
mais
les
athées
de Charlie, on les laissait au Maroc, au Rif marocain, qu'ils n'auraient jamais dû quitter.
On est,
voilà, comme
on
ça,
est,
tout le monde était tranquille.
On est en France, et les
on
gens
les
qui
insultaient pas, on les laissait chez eux.
On est en France, et en France, il y a des Français musulmans. Donc jusque-là, on parle même pas d'immigration qui vient d'arriver, il y a des Français musulmans. Donc soit
issu de l'immigration.
Oui, non mais on est là depuis 60 ans, 70 ans, donc c'est même plus un sujet. Moi je suis de souche. Si on regarde pas, si on regarde ça, je suis de souche.
Mais eux non.
Mais j'ai le droit d'être droit d'être musulmane en même temps. Ce que je veux te dire, c'est que tu n'es pas Charlie. C'est hallucinant que tu
c'est mon droit. Non mais attends. C'est pour la liberté.
Oui, d'accord, sauf que toi tu es pour qu'on condamne le blasphème. C'est énorme.
J'ai pas dit j'étais pour qu'on condamne. J'ai dit qu'à titre personnel, je ne me reconnais pas dans les propos
de Mila. Mais si, ça revient à ça. Ça revient à ça.
À titre personnel, je ne me reconnais pas ni dans les caricatures de Charlie, ni dans les propos de Mila, qui étaient quand même assez vulgaires. Mais c'est pas le sujet.
Mais si, si.
Puisqu'en plus, j'ai dit que j'étais d'accord avec ce qu'elle venait de dire là, précisément sur la police des
mœurs. Sur le fond.
Moi, je suis pas dans...
Mais est-ce que tu la constates, par exemple, toi, en tant qu'enseignant?
Honnêtement, pas du tout dans mon établissement, même s'il y a un certain nombre d'élèves musulmans, mais dans mon établissement, qui est dans un endroit tranquille, ça ne se constate pas du tout. Mais je sais très bien que dans des établissements qui, eux, sont dans des quartiers sensibles, par exemple, ça se constate beaucoup. Ça, c'est une évidence, donc je ne remets pas du tout en cause ce qu'elle dit. Vrai, d'ailleurs, les affaires de Montpellier et de Viry-Châtillon, en ceux qui surviennent en même temps, en sont des démonstrations éclatantes.
Tragique, bien sûr.
Oui, mais tu es contre la critique d'une religion.
Non, je suis pour la critique, je suis contre les insultes à titre personnel. Je ne pense pas en plus que la solution, je me permets de citer l'un de mes maîtres qui est récemment décédé, qui était Patrick Buisson, qui avait bien étudié la question de l'islam et qui a dit, si on n'a que Mila et Charlie à opposer aux islamistes qui sont prêts à mourir pour leur cause, ben c'est un bouclier bien fragile et demain nous serons une république islamique.
Mais c'est un argument pour amoindrir la question du combat contre l'islam politique, parce qu'il n'y a pas que Charlie et Mila pour s'opposer
à
l'islam politique.
Dans le combat,
non, mais il
n'y
a pas que ça.
C'est vous,
parce que en fait, comme vous êtes des croyants, vous aussi, vous n'avez pas trop envie qu'on s'attaque aux religions. Sauf qu'en France, il y a une histoire. L'anticléricalisme, il date de 1900 et même bien avant. Donc on peut critiquer les religions.
Le christianisme du baptême de Clovis,
oui,
là encore 1000 ans.
Voilà. Et donc en France, on peut critiquer les religions et ça ne doit en aucun cas susciter autant de violence
mais
et de
haine.
D'accord.
Je suis tout
à fait d'accord. Aujourd'hui, ce que dit Mila en des termes qui peuvent effectivement être excessifs ou choqués, peu importe, c'est qu'elle dit aujourd'hui, malheureusement, il y a une espèce de poids
qui est en train de se mettre
sur les jeunes filles et même sur certains garçons qui vient, alors toi, peut-être de tradition ou des réseaux sociaux ou de prédicateurs ou ce que tu veux pour leur dire voilà à quoi tu dois ressembler, voilà quelle doit être ta morale, voilà à quoi doit ressembler.
Mais ça existe dans toutes les familles orthodoxes.
Voilà à quoi doit ressembler ton corps.
Non, mais ça existe dans toutes les familles, Alain. Il faut quand même clarifier parce que les gens vont se sentir encore stigmatisés. Ça existe dans toutes les familles orthodoxes, cette espèce de pudeur. La différence, c'est est-ce que tu en deviens prosélyte et que tu l'imposes aux autres? Elle est là, la différence.
Parce que là, en faisant ça, on te dit ce qui est bien et ce qui ne l'est pas.
Oui,
on essaie de te faire croire ce qui est bien ou ce qui n'est pas. Jérôme, tu prendras la parole dans un instant avec Amadou, 32-16, Amadou qui est commercial et pour qui il nous appelle du Val... Provisoirement.
Il ne contracte pas.
Dans un instant, du Val-de-Marne, pour qui, selon lui, non, il n'y a pas de police. Alors, quand on dit police des mœurs, c'est simplement un poids.
Oui.
Un poids social.
Parfois violent.
Et parfois non dit. Et parfois non dit.
Simplement pour dire, voilà comment tu dois être, voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois apparaître, voilà avec qui tu dois discuter. Et certains ou certaines l'accepte pour avoir la paix.
Mais
aussi.
Oui.
À tout de suite
oui.
Au 32-7.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direction RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie, Jérôme Marty, médecin généraliste hors habitant, cadre de la fonction publique. On parle de ce coup de colère. Elle l'a dit elle-même hier, hein, Mila, j'ai la rage, quand elle était chez Apolline de Malherbe. Et sachez juste pour information que Mila, hier matin, C'est plus d'un million de personnes qui l'ont regardé en direct chez Apolline de Matin. Ça a été le record d'audience de la saison pour Apolline de Malherbe. Donc il y a aussi un effet attente de cette jeune fille qui depuis 4 ans. On peut être d'accord ou pas avec ce qu'elle a dit.
C'est pas normal qu'elle ait
plus de 16 ans et elle vit entourée par trois gardes du corps armé.
C'est pas normal
aujourd'hui, si tu veux. Et donc son coup de colère, sa rage hier et ce qu'elle dit sur une certaine jeunesse aujourd'hui qui est sous influence.
C'est un fait.
Voilà, c'est une réalité. Je remercie puis on écoute Amadou et Arnaud dans un instant.
4 ans qu'elle a plus de vie, 4 ans que lors d'une conversation, elle a répondu à des menaces, à des insultes. Par ces mots qui étaient à la dimension des menaces et des insultes qu'on lui renvoyait. C'est tout ce qu'elle a fait. Et ensuite, on a récupéré ça, d'un côté comme de l'autre. Et on en a fait un étendard. Et elle s'est retrouvée, malgré elle, étendard de ça. Et comme elle est courageuse, elle ne s'est pas déniée ensuite. Elle a dit « Oui, j'ai dit ça ». Et je suis désolé, mais dans un pays comme la France, on a le droit au blasphème. Bien sûr qu'on a le droit au blasphème. Bien sûr. Et les religions n'ont rien à faire dans les écoles. Rien, aucun signe, que dalle. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas éviter, on en parlait en page pub, on ne pourra pas éviter l'uniforme à l'école. Il le faut, il le faut vite.
Ah mais moi je
suis
d'accord.
C'est une urgence absolue.
L'uniforme permettrait de régler sans être suffisant.
C'est une urgence absolue.
Mais ne crois pas que tu éviteras, tu es qui est par exemple attaché à la question du blasphème, ce qui n'est pas mon cas, mais ne crois pas que tu pourras défendre la liberté de blasphème à laquelle toi tu es attaché en laissant des millions et des millions de musulmans entrer sur ton sol. Ne crois pas cela.
Mais
il n'y a pas de blasphème dans les pays musulmans.
Il n'y a pas de pays. La religion, c'est pas un pays. Il n'y a pas de musulmanie, pas plus qu'il y a de nations.
Il y a un dar à l'islam, de l'islam, Malaisie à la Mauritanie.
Il n'y a pas de musulmanie, c'est comme ça, quoi. Que tu le veuilles ou non, la religion musulmane est la deuxième religion en France. Oui. C'est comme ça, c'est un fait. Et dans la religion musulmane, 95% ou 99% sont des musulmans qui ne sont pas des musulmans intégristes.
C'est vrai.
Et cette espèce
mais que même ceux qui ne sont pas intégristes haïssent le blasphème.
Cette espèce de manipulation qui laisse à croire que l'islamisme, c'est les musulmans, etc., c'est dangereux. De la même façon que dans la religion catholique, l'extrémisme catholique n'est pas la religion catholique.
C'est pour ça que
pas sa majorité.
C'est pour ça qu'on appelle la loi. Il faut rappeler que c'est pour ça que la loi 1905 est arrivée. Simplement
bien sûr.
Pour faire en sorte que de séparer le cultuel de la République
et tu veux le socle de la démocratie française, il est basé précisément sur la laïcité et c'est pour ça qu'il faut le défendre, mais comme on défend notre bien le plus cher et on doit empêcher la religion de rentrer à l'école. Mais je veux dire, il y a rien de plus fort que ça. Et le droit au blasphème est un des fondements aussi de notre démocratie. On peut pas dire. C'est pas question de dire je suis pour ou contre. C'est question que c'est intrinsèquement lié à l'État français.
Plus tu auras de musulmans sur ton sol, moins tu pourras défendre le droit de blasphème.
Mais qu'est-ce que c'est les musulmans?
Je vais te dire deux choses.
C'est quoi ce monstre qui te fait peur?
Tu me dis 99% des musulmans ne sont pas islamistes. Je suis d'accord avec toi pour dire que la majorité des musulmans en France ne sont pas islamistes. Mais d'après toutes les enquêtes qui ont été faites, le nombre de gens qui adhèrent aux thèses islamistes, ce serait plutôt un quart des musulmans que 1%. C'est plus 25% que 1%. D'après tous les sondages, toutes les enquêtes des sociologues qui ont été faites, rapport à Hakim El Karoui, etc. Mais plus entre un quart et un tiers que sur 1%. Ça, c'est mais donc ça reste une minorité, je suis bien d'accord. Deuxième chose, c'est que même les musulmans, et je peux le comprendre et je peux le respecter, beaucoup de musulmans qui ne sont pas islamistes ne peuvent pas supporter, par exemple, les caricatures de Charlie, même pour ceux qui sont très laïques, même pour ceux qui, même pour des femmes
moi,
qui
ça,
ne portent pas
le voile.
Mais ils ont tué personne pour
mais
ça.
Alors,
c'est
pour ça qu'on écoute Amadou. Contribue à fracturer la société
bonjour,
française.
Bonjour Amadou.
Oui, bonjour. Bonjour
à tous.
Le débat est assez animé dès qu'on dérive sur les musulmans.
Il était animé sur l'éducation. Il était animé.
Alors allez-y Amadou, est-ce qu'il existe
Déjà, je voudrais juste dire à Jean-Louis Bonamy. Déjà, moi, je suis musulman. Jean-Loup, moi je suis musulman, je suis français. Moi, les caricatures, à titre personnel, ça me plaît pas. Mais par contre, les gens ont le droit de caricaturer. C'est-à-dire que je suis pas contre les caricatures.
Oui,
donc
voilà.
Ce n'est pas la peine de dire que les musulmans, ils sont contre les caricatures. Les musulmans ceci, les musulmans cela. Il faut parler d'une minorité. Oui. En plus, quand il dit que tout le monde, plus il y aura de musulmans et plus trop. Non, moi je suis désolé. Toutes les personnes de ma famille, ils ne pensent pas comme justement comme les extrémistes qui s'attaquent à Mila, etc. Mila, moi j'ai des tonnes de trucs sur lesquels je suis pas d'accord avec elle, parce que je pense que maintenant elle s'est extrêmement droitisée. Elle est partie dans une dérive. Même elle l'a dit lors de son interview avec.
Oui, mais ça c'est le bout. Amadou.
Attends, il finit. Allez-y, Amadou. Après, on revient sur le sujet.
Juste, elle s'est extrêmement droitisée. Mais par contre, moi, je suis contre les insultes qu'elle a reçues, les menaces de mort, etc., etc. Ça, je trouve que, de toute façon, même si une personne n'était pas d'accord avec lui, tu débats.
Totalement,
oui. Point sur point, mais t'es pas obligé de la menacer de mort. Donc ça, les menaces de mort, moi, je condamne, etc. Mais par contre, je dis la vérité, elle raconte de la merde sur un tas de trucs. Bon, revenons juste au sujet sur la police des mœurs.
Est-ce qu'elle a raison ou pas?
Moi, je pense qu'encore une fois, elle a tort. Par contre, il y a des gens en France, malheureusement, qui, eux, dès qu'ils voient que leur sœur, elle sort avec quelqu'un, ils l'attaquent. Moi, j'ai un petit frère, en fait. Une fois, il marchait avec une copine à lui. C'était même pas sa petite amie. Il marchait dans la rue avec cette fille-là. Et tu vois, le frère de la fille en question, avec deux amis à lui, qui ont croisé mon frère avec sa sœur. Et leur ont sauté dessus à trois. En plus, par derrière, des personnes bien courageuses, etc. Par derrière, ils sautent sur mon frère et sur la fille. Le frère frappait sa sœur.
Pour
le reprocher justement d'être sorti en gros, parce qu'il pensait que mon frère était son petit ami. Et les deux autres copains, ils étaient sur mon frère.
Finalement, ça rejoint ce qui est dénoncé. C'est la police des mœurs.
C'est ça. Mais là, elle te parle de l'école. Elle te dit qu'à l'école, il y a une police de. Attendez.
C'est pas la même chose.
Parce que. Ce que je veux dire, c'est que des cas comme ça, vous en avez une minorité. Vous allez en trouver des gens. Moi, dans ma vie, des personnes comme ça, j'en ai rencontré deux dans ma vie. Mais pas la personne qui a tabassé mon frère, parce que c'est mon frère, quand il est rentré à la maison, il nous avait expliqué ça. Et après, on était parti justement avec des amis à mon grand frère, c'était parti dans le quartier pour retrouver, en fait, justement, ces personnes-là.
Vous avez raison. Mais c'est exactement ce qui s'est passé pour Shem Chedine. C'est exactement la même chose, malheureusement.
Non, c'est pas la même chose. Je vous explique que mon frère était fait tabasser.
Voilà la différence.
Non, je vous explique que mon frère s'est fait tabasser. Quand il s'est fait tabasser, justement, on est parti dans le quartier pour retrouver les personnes qui l'auront tabassé. Et quand la personne, on l'a retrouvé, la personne, elle a expliqué à mon frère, elle était en pleurs parce que mon grand frère était venu aussi en équipe. Ils étaient venus en équipe pour savoir pourquoi elle avait agressé mon frère. Et il avait expliqué qu'il avait cru que mon frère sortait avec sa sœur.
Mais c'est la même chose, ce que je veux dire, c'est que
nous on leur a expliqué que même si mon frère était sorti avec sa sœur, il n'a pas tabassé quelqu'un pour ça.
D'accord.
Mais le motif est le même.
Il était venu se faire justice au nom d'une espèce de police des bonnes mœurs.
Amadou, il a fait le témoignage. Amadou, vous venez de témoigner de l'idée que finalement, quand on est un garçon, et moi je fais partie de la deuxième génération issue de l'immigration, les premiers arrivés. Et c'est vrai que nous, à l'époque, on pouvait pas, si on se faisait voir avec des garçons, on se cachait, c'était comme ça, parce que si on voyait notre grand frère, c'était notre vie, c'était notre quotidien. Et ce que vous êtes en train de dire, ce qui ne se passe pas dans les familles occidentales, c'est que nous, dans les familles occidentales, quand on a une fille ou un garçon et qu'il a une petite copine qui a 15 ans, le samedi, il peut venir goûter à la maison avec sa petite copine et vice-versa. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas de police des mœurs. C'est normal et naturel. Dans les cultures traditionnelles, qu'elles soient musulmanes, pratiquantes, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout,
il y a cette culture qui fait que une fille, elle n'a pas à avoir de petits copains, elle n'a pas et vice-versa. Ça s'appelle la police des mœurs. Ce que vous ne comprenez pas, Madou, c'est pas un jugement de valeur. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans les sociétés occidentales, si Sophie ramène son petit copain Mathéo le samedi alors qu'elle a 15-16 ans à la maison pour le goûter avec les parents, eh ben il va rien se passer. C'est normal. Sauf que dans nos cultures à nous, et je me mets dedans puisque c'était la culture de mes parents, ça ne se fait pas. On pouvait pas dire à nos parents, maman, cet après-midi, je m'en vais avec mon petit copain Antoine, je vais au cinéma.
Il y a une nouvelle génération qui ne l'accepte toujours pas aujourd'hui.
Moi,
ce que je
constate, c'est la régression. La quatrième génération est toujours sur des codes sociaux que ma génération a connus, qui pouvaient être compréhensibles avec des parents nés en 1920. Aujourd'hui, je comprends pas.
Non, mais je crois que j'ai une question à poser à Madou parce que, en fait, vous venez de nous raconter quelque chose de très intéressant et je vous en remercie. Quelque chose qui semble aller dans le sens de Mila et justement presque arriver à votre frère qui semble justement illustrer cela. Mais en fait, vous nous dites que c'est une minorité. C'est pour ça que vous n'êtes pas d'accord avec Mila.
Oui, mais je voulais dire parce que Zora explique que en fait nous dans notre famille, moi je suis le petit frère d'Aïssatou. Je pense que vous l'avez entendu souvent à la radio. Elle travaille dans une station d'essence, justement en Vendée. D'ailleurs, là, elle est en train de vous écouter.
On la salue.
Je suis désolé, ma grande sœur Aïssatou a des filles. La plus grande fille, elle a 16 ans. Ma nièce. Quand je suis parti la dernière fois en vacances avec ma copine chez ma sœur Aïssatou, elle m'a appris qu'elle avait un petit copain. Excuse-moi.
Je suis pas allé.
Et en plus, son petit copain. Excusez-moi, Zora. Son petit copain, il avait pas un prénom musulman. Excusez-moi, je me suis pas énervé, je me suis pas.
Mais on parle pas de vous, Madou.
Parce qu'en fait, vous faites croire que justement que aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les mœurs elles changent. Aujourd'hui, moi, je suis français.
Comme
c'est pour ça que j'ai précisé, je suis français.
Amadou. Parce que parler de votre sœur. On parle simplement liberté et pas carcan.
Mais
qu'après,
oui.
Vous veillez à ce que ça se passe bien parce que vous êtes l'aîné, que personne ne lui fasse du mal. C'est normal. C'est comme ça qu'on fait, que les
bien
parents
sûr.
Soient vigilants. C'est logique. Mais c'est liberté de fréquenter, liberté de textoter si on veut sexe. Et puis de temps en temps, on regarde que ça n'aille pas trop loin.
De vivre, quoi.
C'est
voilà.
liberté de s'habiller de vivre, comme on veut. Liberté
c'est de ça, Amadou, qu'on parle.
De penser,
tout.
Liberté de fréquenter. On ne parle pas d'autre chose. Et ce que disait Mila, en des termes qui peuvent peut-être être un peu choquants, et ce qui est arrivé à Samara, et ce qui est arrivé à Siem Sedine, c'est simplement qu'aujourd'hui, il y en a qui veulent entraver cette liberté.
C'est tout.
Au nom d'une espèce de religion, d'obscurantisme.
Il y a une évolution, Amadou, vous avez raison, il y a une évolution. Il y a beaucoup de Français ici d'immigration qui ont évolué.
Juste rappeler quand même que ce manque de liberté ou cette privation de liberté, elle est toujours tournée vers les femmes, pas vers les hommes. Et curieusement, est absente du débat, toutes les ligues de défense des femmes, etc. Où elles sont
les féministes sont bien silencieuses.
Oui, toujours.
Où elles sont?
Où est Sandrine
Rousseau?
Défendre les femmes musulmanes, c'est penser être contre, être raciste.
Merci. Alors, on a posé la question, y a-t-il une police des mœurs à l'école, comme disait Mila? 73% de oui, qui effectivement estiment qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème. Je salue Francis, qui est notre gagnant du jour. C'est lui qui a gagné le séjour à l'Europa Park. 2 jours pour 4 personnes à l'Europa Park. Élu 8 fois meilleur parc loisirs au monde. Il va profiter des 100 attractions. Francis du Pas-de-Calais, félicitations mon cher Francis. On se retrouve demain avec Joël Dagosséry, la coach de vie, l'agriculteur Didier Giraud, le consultant pour les entreprises Antoine Diers. Mon cher Rémi Barré, venez. Ou viens Rémi.
Oui, c'est pas bien, c'est bien.
Voilà.
Salut Alain, salut les grandes gueules.
Le débat va continuer.
Absolument, dans un instant, dans Estelle Midi, on va parler des questions de sécurité, des transports en commun. Tiens, la ligne 1 et 13 du métro était coupée ce matin, de la pollution de la Seine. Et vous posez cette question, JO, craignez-vous un fiasco? On est à 107 jours, enfin, à se dépêcher un petit peu. L'automobile, le gouvernement et les constructeurs y poussent, le consommateur rechigne. Faut-il en finir avec l'idée du tout électrique? Et puis l'effondrement de la lecture, la baisse de niveau d'orthographe chez les jeunes. A-t-on affaire à une génération de crétins? On vous pose la question, vous nous appelez au 3216.
Ah bah voilà, c'est clair. Parents de crétins, c'est le moment de témoigner au 3216.